En France, l'époque contemporaine débute à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l'Ancien Régime périclite au suite de la Révolution française de 1789. Il s'ensuit de profondes refontes politiques, économiques ou encore sociales jusqu'à nos jours. Pour se résumer, synthétisons les événements historiques majeurs survenus lors des différents régimes politiques français successifs. C'est parti! Au cours de la période des temps modernes, le système féodal s'effondre au profit de l'absolutisme monarchique. Puis, sous l'influence des travaux des Lumières, la monarchie et l'État se transforment. Finalement, l'Ancien Régime prend fin lorsque la monarchie constitutionnelle est abolie en 1792, à la suite des conséquences de la Révolution française. De 1792 à 1804, on observe trois formes de régime politique sous la Première République, la Convention nationale, le Directoire et le Consulat à l'issue d'un coup d'État de Napoléon Bonaparte. En 1804, le Sénat proclame finalement le Premier Empire. Napoléon Bonaparte est alors sacré empereur des Français. Il s'engage dans une vaste politique de conquête, les guerres napoléoniennes. Suite à de nombreuses victoires militaires, la France conquiert la majeure partie de l'Europe continentale. Cependant, les Français échouent à s'emparer de la Russie et des îles britanniques. Durant cette période, la France connaît de nombreux progrès. La simplification et l'unification du système juridique grâce au Code civil, la modernisation de l'éducation grâce à la création des écoles primaires et des lycées, la rénovation du territoire avec la création de routes et de ponts pour faciliter les échanges commerciaux et les déplacements des troupes. Le Premier Empire s'achève en 1814 lorsque le Sénat prononce la déchéance de Napoléon. Ce dernier est capturé durant la bataille de Waterloo en 1815, puis exilé à Sainte-Hélène. La même année, Louis XVIII reprend le pouvoir et restaure la monarchie et la dynastie des Bourbons. Durant cette période, la monarchie cherche à rétablir l'ordre ancien et à renforcer le pouvoir royal. Cependant, des tensions et des crises politiques émaillent cette tentative. En 1830, la Révolution des Trois Glorieuses éclate. Louis-Philippe d'Orléans devient alors roi des Français, sans dissoudre la monarchie. L'essor de l'industrialisation et de l'urbanisation accélère la différence idéologique et les changements économiques et sociaux. Les conflits politiques entre les différentes factions aboutissent à une nouvelle révolution en 1848. Les insurgés renversent le pouvoir en place et fondent la Seconde République. Le président élu, Louis-Napoléon Bonaparte, lance des programmes de travaux publics et entreprend des réformes politiques, sociales et économiques. Mais sous la menace de tensions entre les républicains et les conservateurs, Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d'État en 1851. Il met fin à la Seconde République et établit le Second Empire. L'empereur Napoléon III mène des réformes importantes dans les domaines de l'industrie, des transports et de l'urbanisme. La France connaît une période de croissance économique et de modernisation de la société. Haussmann mène de grands travaux de rénovation dans Paris. Le canal de Suez est également inauguré en 1869. Cependant, on observe aussi des tensions sociales, notamment entre les travailleurs et les patrons, ainsi que des mouvements politiques d'opposition à l'empereur, comme par exemple l'attentat d'Orsini. Engagé dans une politique de conquête, Napoléon III perd la guerre contre la Prusse en 1870. Le Second Empire prend fin au profit de la Troisième République, qui inaugure la pérennité du régime républicain en France. La fin du XIXe siècle correspond au début de la Seconde Révolution industrielle. Cette période est marquée par une relative stabilité politique, économique et sociale, ainsi que par une croissance économique et une effervescence culturelle. Voici plusieurs éléments notables de la Belle Époque. En 1876, Louis Pasteur présente la théorie des germes et découvre le vaccin contre la rage. En 1881 et 1882, les lois Jules Ferry rendent l'enseignement primaire obligatoire, laïque et gratuit. En 1889, la Tour Eiffel est construite pour l'Exposition universelle de Paris. En 1903, le physicien français Henri Becquerel découvre la radioactivité. En 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est votée. Entre 1894 et 1906, l'affaire Dreyfus ouvre un conflit social et politique. Elle est le symbole moderne et universel de l'inéquité et reste un des exemples les plus marquants d'une erreur judiciaire. Le début du XXe siècle se caractérise aussi par la montée des tensions internationales. Les grandes puissances européennes s'allient par différents traités et accords militaires. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie forment la Triple Alliance. La France, le Royaume-Uni et la Russie forment la Triple Entente. Le 28 juin 1914, l'assassinat de l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie déclenche l'entrée en guerre de toutes les nations unies par les différents accords et traités. Pendant 5 ans, les grandes puissances européennes s'entre-déchirent. La bataille de Verdun en 1916 est l'un des événements représentatifs de ce conflit. Les soldats se terrent dans des tranchées sous le feu de l'artillerie. Les nations de la Triple Entente sortent victorieuses et l'armistice est signé le 11 novembre 1918. Entre 1918 et 1929, l'Europe se reconstruit. Il y a une forte croissance économique, un renouveau culturel et artistique. C'est la période des années folles. Mais en 1929, une crise économique mondiale provoque une hausse du chômage et de la misère en Europe. Un mécontentement s'installe chez les citoyens. Les partis des mouvements politiques comme le fascisme et le communisme profitent de la situation pour accéder au pouvoir. Des dictatures sont instaurées en Espagne, en Italie et en Allemagne. Hitler accède au pouvoir en 1933. En France, Léon Blum mène des changements sociaux importants, notamment en 1936 avec la réduction du temps de travail, la mise en place des congés payés ou des augmentations de salaire. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne en bafouant les accords militaires, ce qui déclenche la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands mènent une guerre éclair, le Blitzkrieg, qui conduit la France à signer l'armistice en 1940. Sous occupation allemande, le gouvernement français établit un régime de collaboration, le régime de Vichy. Toutefois, la résistance française s'organise depuis l'Angleterre, ainsi que grâce aux réseaux clandestins sur le territoire. Progressivement, les forces alliées, la France, l'Angleterre et la Russie, renversent les forces de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, avec l'aide des États-Unis. La France est libérée en 1944 et l'armistice est signé le 8 mai 1945. Le monde découvre alors le plan d'extermination nazi et l'existence des camps de concentration et d'extermination. À la fin de la guerre, l'économie européenne est en ruine. En 1946, la France met en place la 4e République. Progressivement, le pays se reconstruit, notamment grâce à l'aide du plan Marshall et la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Il y a alors une forte croissance économique, industrielle et une amélioration des conditions de vie. On assiste aussi à l'explosion de la natalité, le baby boom. C'est le début des Trente Glorieuses. En 1957, le traité de Rome est signé et aboutit à la création de la Communauté économique européenne visant à garantir la paix et la prospérité. Toutefois, la 4e République est émaillée par de nouveaux conflits. La guerre d'Indochine entre 1946 et 1954 et la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. À ce sujet, en 1958, un coup d'état militaire, le putsch d'Alger, revendique la prise de pouvoir par le général de Gaulle. Pour éviter la guerre civile, le président René Coty nomme le général de Gaulle président du Conseil des ministres. Ce dernier met fin à la 4e République. La constitution de la 5e République est promulguée le 4 octobre 1958. Elle renforce le pouvoir exécutif et le rôle du président. En 1962, un référendum introduit l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Au cours de cette période, les colonies françaises gagnent progressivement leur indépendance à la suite des accords d'Évian. La France connaît aussi des évolutions économiques et sociales significatives durant les Trente Glorieuses. Mais elle est aussi confrontée à des défis politiques et sociaux importants, comme par exemple les grèves étudiantes de mai 1968, son implication dans des conflits internationaux comme la guerre du Golfe en 1991, ou la mise en place de l'Union Européenne. Le faible recul historique rend difficile l'identification de repères chronologiques représentatifs de l'époque contemporaine. On peut supposer que les progrès scientifiques et la mondialisation avec les guerres économiques ou les traités internationaux feront partie de l'histoire de demain. Quoi qu'il en soit, en guise de conclusion, on peut retenir que l'époque contemporaine en France est marquée par la révolution industrielle, la républicanisation de l'État, l'abolition de l'esclavage et les guerres mondiales. Les changements économiques dans les différents domaines améliorent les conditions de vie des citoyens qui s'investissent de plus en plus dans la vie politique. Plusieurs conflits éclatent et aboutissent à des changements de régime et des progrès sociaux. Sur le plan économique et international, la France compte parmi les plus grandes puissances économiques du monde, notamment au moment des guerres napoléoniennes et de la période coloniale. Toutefois, les deux guerres mondiales successives affaiblissent les grandes puissances européennes. La France et les grands pays d'Europe développent l'Union européenne dans le but de préserver la paix sur leur territoire et conserver un rayonnement international. Enfin, les avancées technologiques dans les domaines de l'industrie, des transports, des communications, de l'énergie et de l'informatique transforment profondément la société française. En tout cas, il est difficile de prévoir l'événement symbolique qui mettra fin à l'époque contemporaine et marquera le début d'une nouvelle grande ère historique. Pour conclure, je citerai simplement les mots de l'écrivain américain Robert Penn Warren. L'histoire ne nous donne pas un programme pour le futur, mais elle peut nous donner une meilleure compréhension de notre humanité et de qui nous sommes, afin que l'on puisse mieux faire face au futur. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. C'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Pour rappel, vous pouvez télécharger la fiche de synthèse sur mon site internet. Pour ceux qui veulent être plus efficaces et gagner du temps, notamment dans la révision, du contenu premium est aussi à votre disposition. C'était Mr. Fancho, à très vite.